Cet épisode a une distance de 8,5 km à un pace de 6 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie.
Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu.
Notre mission, vous accompagner à vous mettre ou vous remettre en forme grâce à la course à pied. Aujourd'hui, on reçoit Jade, qui est chiro et aussi ultramarathonienne, mais elle se définit surtout comme Jade et on veut parler de démotivation. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi, Coach Bill. As-tu couru cette semaine?
Salut, Coach Frank. Bien sûr que j'ai couru. Puis ma semaine, je dirais, je cherchais, je savais qu'on se parlait. Hein. Bon, il m'a demandé, j'ai couru. Faut que je trouve quelque chose d'intelligent à dire. Puis cette semaine, ça a été focusé beaucoup sur courir avec ma blonde. Parce qu'elle est en retour d'une grosse entorse à la cheville. Elle était inscrite depuis le printemps à un 10 km là, à l'automne, qui est la semaine prochaine. Et puis, ça a été mis en péril là, suite à ça. Ah, je vais être capable d'être arrêté quand même plusieurs semaines. Fait que les derniers jours, des dernières semaines, là, je l'accompagnais un petit peu plus pour garder la motivation, s'assurer que sa technique restait correcte, parce que souvent, avec la fatigue, sa blessure revenait. Fait que cette semaine, ça a été focusé beaucoup sur ça. Puis toi, t'as-tu couru?
Oui, j'ai couru un peu moins que d'habitude. En fait, c'était fréquent parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai une blessure, entre guillemets. J'ai eu mal au genou, donc j'ai manqué deux entraînements. Finalement, c'était au genou que j'avais mal, mais c'était vraiment juste mon mollet. Je le sentais que ça partait du mollet. J'étais allé en masso et j'ai couru hier et c'était correct. Que je me croise les doigts parce que, for the record, je cours mon premier marathon dans deux semaines. Fait que j'ai comme quand même eu un petit stress de dire ça va, je vais-tu être capable de le faire dans deux semaines, mais j'ai confiance que je vais être capable de courir ça dans deux semaines.
Cool. On reçoit, comme on dit, comme tu l'as dit en intro, Jade, qui est chiro depuis 2019. C'est une coureuse, même je dirais une ultra-coureuse, ultra-traileuse, ultra-marathonienne. Choisissez le terme qui vous plaît. C'est aussi une équipière pour des, je dirais même des ultra-ultra-trailers. On pourra en parler. Puis aujourd'hui, elle voulait nous parler de démotivation, un épisode qu'elle a vécu, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, puis comment on peut faire des liens avec tout un chacun, même si on n'est pas des ultra-coureurs, finalement, on passe tous par des périodes comme ça, puis on voulait profiter un peu de son expérience pour que chacun trouve du sien là-dedans. Mais Jade, même question pour toi, as-tu couru cette semaine?
Les gars, j'aimerais bien vous dire que oui, mais non, je ne cours pas depuis fin août. J'ai eu un petit épisode de péricardite, donc c'est de l'inflammation au niveau de l'enveloppe du cœur. Puis depuis le 27 août précisément, j'ai eu mon diagnostic, puis je ne peux pas courir. Donc c'est pas facile, mais c'est la vie.
Moi, j'aimerais juste dire que ça fait un mois, parce que tu sais, des fois avec l'enregistrement, le temps qu'on diffuse, fait qu'on est le 29, on est le 30 septembre. Fait que ça fait un mois, grosso modo, que tu n'as pas couru à cause de ta péricardie.
Je pense qu'on pourrait revenir dans ton histoire parce que quand on s'est parlé la première fois, tu me parlais de démotivation. C'était même pas de cet épisode-là dont on se parle. Je pense qu'on pourrait faire des super beaux liens dans l'optique où là, c'est même pas une blessure de course. C'est un autre aléa qui t'amène à arrêter la course puis à essayer de garder la motivation dans le sport en général à travers tout ça. Fait que oui, je trouve ça super intéressant. Merci de ton partage. Puis juste avant qu'on tombe dans ton historique, toi, de coureuse, j'aimerais ça que tu nous parles un peu rapidement de la chiro. Je vais te faire un aveu, là. Ma conjointe est orthothérapeute. Toi, t'es chiro. Je connais des physios. Je connais des ostéopathes. My God, pour vrai, là, quand j'ai quelque chose, là, j'ai l'impression que c'est un peu la roulette russe, là. OK, qui je vais voir? Je brasse un diététicien. OK, je vais aller voir un physio. Il fait un bout et il me dit « Ah, je peux rien faire pour toi, j'en choisis un autre ». Puis j'ai l'impression que pour plusieurs personnes, c'est un peu ça aussi. Quand on essaye des choses, puis je vais rajouter une autre couche là-dessus, des fois, tu peux aller voir un physio, puis c'est pas le physio que ça te prenait, puis un autre physio serait plus approprié pour ton type à toi. Fait que pour moi, c'est cette espèce de brouillard-là, en avant tous les spécialistes de la santé, c'est un peu malaisant, je trouve, quand on est blessé, que ça va bien, puis qu'on dit « Où je m'en vais? » Fait que sous cet angle-là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu. qu'est-ce que la chiro, puis quand est-ce que ça vaut la peine qu'on vous appelle vous autres?
Bien, premièrement, il n'y a pas comme, tu sais, pour une même blessure, on peut aller voir, par exemple, un masso, un physio, puis, tu sais, une personne, ça va lui faire du bien, une autre personne va préférer aller voir quelqu'un. Fait que, tu sais, je vais mettre ça au clair, là. Il n'y a pas comme, il faut aller voir un chiro pour tel type de condition absolument. Il y a d'autres professionnels aussi qui peuvent aider. Mais en gros, là, la chiropratique, c'est, on traite les systèmes neuro, musculo-squelettique. Donc, tout ce qui touche le système nerveux, les muscles, les articulations et tout. Puis, ben, en fait, c'est ça, les muscles et les articulations. Donc, on regarde vraiment le corps dans son ensemble, mais ce que je dis souvent aux gens, on est comme un peu un genre de docteur du système nerveux. C'est que le système nerveux, qui est formé de la moelle épinière, des nerfs, du cerveau, ben, tout ce système-là est protégé par des os. Donc, on a la colonne vertébrale, le cerveau qui est protégé par notre crâne, puis on a un paquet de muscles, de ligaments, de tendons qui s'attachent par-dessus tout ça. Fait que, dans le fond, en chiropratique, on veut s'assurer qu'il y a une bonne communication entre le cerveau et le reste du corps, et on va s'assurer que les articulations, les vertèbres, bougent bien les unes sur les autres pour qu'il y ait une bonne communication au niveau du système nerveux, pour pas qu'il y ait une interférence, autrement dit. Donc, on va s'assurer de replacer, si on veut, je mets des guillemets, là, on me voit pas, là, on va s'assurer de replacer les vertèbres pour faire en sorte que la communication se retrouve. Et quand on y pense, ben les muscles reçoivent de l'information via les nerfs. Donc, c'est là où je fais un peu un lien. Si les vertèbres sont pris et que le muscle, dans le fond, se tend en réponse à ce blocage-là, ben peut-être que parfois, à force de traiter musculairement, le problème ne va pas nécessairement se régler. Donc là, parfois, un ajustement va aider à ce que le traitement, par exemple, en masso et tout, soit plus efficace. Moi, ça, c'est peut-être plus mon explication, là, ma vision, parce que c'est vraiment un ensemble de plein de systèmes.
Non, c'est cool au bout, puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe, là, mais t'as amené quand même les trois strates, là, que ce soit neuro, musculo, squelettique, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Tu sais, souvent, j'entends « Ah, j'ai un nerf coincé, là, j'ai mal ici. » Non, c'est un nerf coincé, c'est pas ça que ça fait. Là. Mais t'as le nerf qui initie, qui amène le courant, qui va innerver le muscle, qui va faire son mouvement, qui va bouger, qui va faire bouger un os ultimement. C'est un peu ça, dans le fond, la chaîne, là, tu sais. Bref, toi, tu dis au lieu de travailler sur le muscle, qui est souvent où les massos, les orthos travaillent, tu travailles en amont au niveau plus des nerfs, de s'assurer que tout est bien placé, bien aligné, pour que le reste de la chaîne fonctionne bien.
Exact. Tu as bien résumé. Parce qu'on ne regarde pas comme juste un système séparément, puis un peu tous les autres professionnels, c'est un peu ça. Là, on regarde le corps au complet. Mais je pense que le système nerveux est quand même très important dans l'approche chiropratique. Là. Je te dirais, c'est peut-être pas ce qui distingue, mais puis si on a recours aux radiographies, chose que les autres professionnels nécessairement n'ont pas. Si on peut prendre des radiographies, les interpréter. Donc ça, c'est quand même une bonne partie, un bel atout là, à la chiropratique. Donc ça nous permet encore peut-être plus facilement de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je veux dire, on n'a pas des yeux rayon X, là, je dis souvent ça à la blague, mais c'est ça, c'est. Moi, je m'en sers beaucoup là, dans ma pratique, là, les radiographies, puis. Voilà.
Good, merci. Bien, je pense que oui, c'est éclairé. En tout cas, moi, ça m'éclaire. Puis, ce qui nous amène à... C'est quoi, toi, ton historique de coureuse? Tu as commencé à courir quand? Ça ressemble à quoi? Vraiment un survol. Puis après ça, bon, on ira plus précisément là, dans notre sujet du jour de la démotivation.
Ouais. En fait, j'écoute beaucoup de podcasts, là, puis on dirait que c'est comme un peu... Je ressemble à beaucoup de personnes, je crois. J'ai commencé environ vers... en 2011, sur la route... j'ai fait des 3, des 5 kilomètres par-ci par-là. Puis par la suite, ben, j'ai eu à faire un 10 kilomètres dans le cadre d'un cours d'édu. Après ça, je sais plus quelle année, là, je pense en 2015, j'ai fait un demi-marathon. Et là, j'avais vécu un premier mini-épisode, là, si on veut, de démotivation. Ben, en gros, t'sais, vous savez, là, sur la route, on a quand même une montre, en fait, qui nous permet de savoir si on est toujours au même pace, là. Fait que, tu sais, j'avais comme idée que je voulais faire en tant de temps. Fait que mes entraînements, ben, je m'entraînais à ce pace-là. Puis finalement, ben, j'ai pas pantoute couru à ce pace-là parce que j'ai eu un moment où ça a juste pas bien été dans mon demi-marathon. Puis j'ai dû marcher. Jamais de ma vie, là, dans tous mes scénarios, là, jamais que j'avais pensé marcher. Puis, finalement, ben, après le demi-marathon, j'ai comme eu un gros, d'âme, un peu de déception, comme si je me sentais pas bonne, là, un peu d'estime. Puis, tu sais, on dirait que tu te remets un peu en question, tu sais, pourquoi je cours. Finalement, j'aimais ça parce que dans ma tête, j'allais être bonne puis faire ce que je voulais, tu sais, selon ma perception, là. Mais finalement, ben ça s'est pas pantoute passé comme je pensais. Puis là, je m'étais dit, plus jamais je fais de demi-marathon. Sur la route, tu sais, c'était fini. Fait que là, je me souviens plus trop par après là si j'ai en tout cas, je sais que j'ai jamais refait hein, by the way un demi-marathon officiel là, sur la route. Ça a comme été, j'en ai fait plein en entraînement, mais j'ai plus jamais refait ça officiel là. Je pense que j'ai un mini traumatisme. Puis par la suite, ben c'est ça là, j'ai quand même continué à courir. J'ai eu, c'est ça là, l'épisode que je vais vous parler tantôt, plus de démotivation, qui m'a emmenée vers la trail. Puis j'ai fait par la suite mon premier 50 km. En tout cas, j'ai continué à courir plus en sentier maintenant.
Avant de tomber là-dedans, j'aimerais ça. C'est quoi toi ta définition de la motivation?
En fait, ma réponse va être appuyée sur un podcast que j'avais écouté, puis je trouve que ça faisait vraiment du sens là. Il y a un coureur qui vient de Trois-Rivières qui fait un doctorat sur justement la motivation. Puis ça m'avait vraiment accroché, puis on dirait que je me suis reconnue là-dedans. Il parlait de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Puis ça, c'est vraiment, je pense que pour plusieurs, on s'en rend pas compte que souvent notre motivation est plus extrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur. Ah, je vais courir parce que je veux me sentir fière de moi, parce que tu sais, je vais avoir une médaille ou peu importe, extrinsèque, tout ce qui est à l'extérieur. Puis intrinsèque, ben, c'est quand c'est une motivation qui vient de toi, là, tu sais, que c'est vraiment parce que ça te parle et tout. Puis la différence entre les deux, c'est que la motivation extrinsèque, ben ça dure. C'est comme éphémère, tu sais, quand tu vas avoir fini ta course puis tu vas avoir eu ta médaille, ben tu seras peut-être plus motivé à courir, tu sais. Au final, c'est un peu ça, tu sais, souvent moi c'était un peu ça qui est arrivé pour le demi-marathon. Tu sais, c'était le demi-marathon, je le fais, mes amis s'inscrivent, je veux faire mon temps, puis finalement ça c'est pas ce qui arrive, puis on dirait qu'après ça je suis qui moi, tu sais. On dirait qu'on se définissait comme un coureur, mais on dirait que finalement, ça venait peut-être pas tant que ça de moi, là, où je m'étais pas du moins questionnée à savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que pour moi, c'est ça. Ben la motivation, c'est quelque chose qui va finalement me permettre de continuer à faire ce que j'aime le plus longtemps possible, parce que ça vient de moi.
Fait que je voulais savoir, est-ce que tu as le nom du podcast ou de la personne? J'aimerais ça le mettre dans les références. Peut-être les auditeurs, ils pourraient s'y référer. Si tu ne l'as pas, puis que tu peux me l'envoyer plus tard, au pire, je pourrais juste le mettre dans les notes de l'épisode. En fait, juste ça, mais c'est Bill qui va le faire, non?
En fait, le gars en question, c'est Benoît Plante, mais je me souviens plus exactement c'est quoi le podcast.
On shoot out Benoît.
Yes! Ben, tu vas avoir un call bientôt.
Ben, tu vas avoir deux écoutes de plus sur ton podcast cette semaine. Fait que maintenant qu'on a parlé de ta définition de la motivation, maintenant j'aimerais ça que tu nous parles de ta période de démotivation, Jade.
Oui, en fait, j'ai même eu de la misère à me situer dans le temps, là. Il a fallu que je regarde des photos sur mon Facebook pour me situer. Puis je pense qu'avoir réussi à trouver un peu le c'est quand que c'est arrivé. En fait, là, en 2016, j'avais eu une première expérience de bénévolat à l'Ultra Trail du Mont-Albert. Ça a changé de nom, là, BTCC. Puis, ça a été mon premier un peu, ma première saucette là, dans la trail. Puis, je me souviens, j'avais été bénévole, comme je vous dis, mes amis, ils couraient, puis j'avais fait comme « wow ». Puis moi, je suis souvent du genre à idolâtrer, si on veut, ou à me comparer, là. Puis, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant comme événement. Puis, j'avais fait une course par la suite, le XC de la Vallée, le Transvallée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'avais fait le 10 km, puis ça s'était bien passé, somme toute. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là où j'avais vécu un genre de petit high. Puis, vous savez sûrement qu'un high, ça finit toujours par un petit low. Puis, concrètement, je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'était passé, mais par la suite, là, je pense que c'est plus mon anxiété de performance et toute la comparaison de voir des filles super en forme, bonnes et tout et tout. Puis tout ça m'a emmené peut-être à moi comme je transitionnais avec tout ça, c'est plus que je compensais avec la nourriture. Donc, je mangeais mes émotions.
T'en as deux pas pires ici. En tout cas, t'en as au moins un. Je vais parler pour moi. T'en as un bon.
Ça. Ouais. Oh, non, deux. Je m'inclus.
C'est comme un genre de, je sais pas trop comment, genre d'auto-sabotage ou comme, ah, mais t'es pas capable de faire comme eux, fait que tant qu'à ça, ben on dirait que c'est, on se tape un peu sur la tête, là. En tout cas, moi, c'est un peu plus deep. Peut-être, je suis désolée de rester dans le deep, là, mais je vais expliquer un peu, là. Puis, ça a comme été un peu le début, ça. Là, après ça, ben c'est sûr, là, veux pas, tu fais encore du sport, mais en même temps, la motivation, justement, est pas autant intrinsèque parce que t'es gros dans le regard des autres, peut-être, ou le regard que moi, je me porte envers moi-même. Fait que je mange, puis là, ben je me souviens, là, j'avais fait une course à Rimouski comme à la fin de cette même année-là, puis déjà, sur les photos, je voyais que j'étais un peu essoufflée à l'hélium, là, tu sais. J'avais... Fait que là, j'ai fait, OK, ça a sûrement commencé un peu après le gros war de trail, puis après ça, ça a comme eu un petit down. Et là, ben ajoute à ça l'école, parce que, tu sais, c'est quand même pas rien, là. À l'école, on a quand même des bonnes années. Puis, ben tu sais, l'anxiété de performance, c'est pas juste dans le sport, c'est aussi à l'école. Fait que là, tu veux performer, tu veux être bon, tu te compares, puis veux pas, ben les gens sont tous pas mal bons, là, à l'école, là, quand... en chiro, fait qu'on dirait que tu veux toujours être dans les moyennes, puis là, ben tu travailles, tu étudies, puis là, on dirait que tu veux comme te faire du bien en allant courir, mais au final, c'est plus tant parce que ça me fait vraiment du bien, on dirait que c'est pour compenser peut-être ce surplus de nourriture-là, si on veut. Fait que ça a comme été une période où j'étais plus tant motivée parce que je me souvenais les temps que je faisais quand je courais justement sur la route, avoir mon pace. Puis là, je me souviens, à un moment donné, là, je me sentais tellement pas bien peut-être parce que j'avais gros mangé. Puis là, je voyais l'heure, j'étais comme, bon, faudrait que j'aille courir, mais je serais pas capable de courir à temps, tu sais, à tel pace. Fait que bon, finalement, j'irai pas, ça sert à rien. Fait que finalement, ça a comme été une petite période un peu plus sombre où, ben la course était de moins en moins présente, puis la nourriture l'était un petit peu plus. Donc, puis ça, avec l'école, le stress, il y a un été, là, j'avais deux jobs, puis j'étais brûlée ben raide. Ça allait pas tant, là. Fait que, puis je me souviens, là, on dirait que c'est comme si j'avais perdu tous mes repères. Je courais vraiment moins, ou du moins quand je sortais, c'était comme parce que j'allais me sentir mieux, mais finalement, je me sentais pas tant mieux. En tout cas, fait que ça a été ça, la grosse période, puis je pense que je suis pas mal certaine que je suis pas la seule qui a peut-être déjà vécu ça, là, de... On court peut-être juste dans le but de perdre du poids ou de juste retrouver une espèce d'équilibre de bien-être. Puis finalement, ben on se rend compte que c'est peut-être pas la solution, qu'il faut peut-être trouver le pourquoi qu'on commence à manger ou cacher nos émotions. Là. Fait que c'est une petite période un petit peu moins belle, puis en tout cas, on peut en revenir, mais je suis vraiment contente de comment je me suis sortie de ça. Puis ça a été quand même une période... quand même grande, finalement. Ça s'est étalonné sur plusieurs années. Puis je me rendais compte que j'étais tout le temps un peu plus fragile. Tu sais, on reste toujours un peu... Je le vois un peu comme quelqu'un qui, peut-être, qui a un problème avec peu importe quelle addiction. On dirait que c'est un peu toujours là. Puis tu te questionnes toujours, est-ce que pourquoi je le fais, finalement, tu sais? Est-ce que j'ai couru parce que j'aime vraiment ça ou si c'est à cause de ça, tu sais? Fait que c'est quelque chose qui m'a fait cheminer puis me questionner puis me connaître encore plus. Mais fait que c'est ça un peu plus ma période de démotivation.
Je sais que Bill a d'autres choses à ajouter, mais ça reste toujours ça. Je pense que quand tu es addict dans la vie, c'est toujours, malheureusement, là, c'est une personne un peu plus âgée que toi qui parle présentement et ça va rester. Fait que on veut apprendre à vivre avec.
Tu ne donnes pas trop foi à l'avenir, toi.
Non, mais c'est la triste réalité. Puis je veux dire, j'ai ça en moi, je le sais. Puis ouais. Tu sais, Bill, je suis impliqué dans beaucoup de mouvements de dépendance. J'avais une mère alcoolique, fait que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et c'est quelque chose qui ne part pas. C'est t'apprends à vivre avec, puis t'apprends à vivre avec toi, puis à pas te taper sa tête quand tu rechutes, puis de juste continuer par en avant.
Moi, je suis un gars qui adore manger aussi, là. J'aime la bonne bouffe, puis je vais reprendre une citation que j'ai nommée souvent sur le podcast. You can't outrun a bad diet. Tu peux pas dire je vais courir plus parce que j'ai mal mangé. C'est impossible. Cette équation-là ne fonctionne pas. Puis tu as dit autre chose qui m'a vraiment percuté aussi. C'est dans les périodes où ça va moins bien, que ce soit à cause d'une blessure ou d'une démotivation, si je regardais mes temps. Mais c'est impossible de faire les mêmes temps pendant que tu as un handicap, disons-le comme ça, là, peu importe lequel il est. Mais on se compare à ça pareil, parce que tu dis, moi, mon PB, c'est ça, puis tu sais, tous les sites, puis tous les rappels, ton PB sur 10, c'est ça. Ouais, mais c'était ça, dans une période prime, que j'avais pas d'enfant, que j'étais pas à l'école, que aujourd'hui, je ne suis pas dans le même contexte, mais ça nous rappelle toujours de se comparer avec ce chiffre-là comme si c'était un chiffre référence. Alors que, puis tu l'as dit, Frank, tu sais, nous deux, on est plus vieux, on vieillit. À partir de 30 ans, il y a quand même on est pas mal à notre pic là, au niveau de la forme physique, de notre possibilité, si on veut. Après ça, ça dégrade d'à peu près 1,5% par année. Mais votre max, il n'est plus le même rendu à 50 qu'il était à 30 finalement. Ce qui fait qu'un, je vais nommer des chiffres en l'air, là, un demi-marathon en 2 heures à 30 ans, puis un demi-marathon en 2 heures à 50, c'est pas pantoute le même temps. Il est extrêmement meilleur à 50 le 2 heures parce que tu es beaucoup plus proche de ta capacité maximale théorique finalement à 50 qu'à 30.
C'est pour ça qu'il y a des catégories d'un course d'ailleurs.
Mais tout à fait. Tout à fait, mais on ne se le rappelle pas tant parce que ce qu'on compare, c'est un chiffre. Tu dis, hey, moi, je cours à 5-10. Ah ouais, t'es plus vite que moi. Ouais, non, t'as peu, là. Prenons le portrait global, là, puis peut-être que je suis beaucoup plus vite que toi si on prend en compte tous les éléments autour, puis tout ce qui vient avec. Fait qu'il faut vraiment se comparer à nous-mêmes par rapport au contexte aussi. C'est difficile parce que tout le marché n'est pas bâti comme ça. Il est bâti pour un chiffre, glorifier les meilleurs, les premiers. Mais pour vrai, moi, dans mon livre à moi, quand je vois quelqu'un qui s'est grandement amélioré, puis tu sais ce qu'il a surmonté, puis tu connais l'histoire, ça vaut bien plus cher que le chiffre qui est écrit sur Sportstat.
Ben moi, je vais y aller à rétrospect, parce que là, on a parlé de ta motivation. Qu'est-ce que ta définition de motivation? On est revenu un peu avec une période de démotivation. Ce que j'en comprends, c'est que le trail t'a aidé à remonter. Rétrospective, comme qu'est-ce que t'en tires de ça? Qu'est-ce que tu pourrais parler aux gens? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se démotiver. Je me suis démotivé les dernières années. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Comme qu'est-ce que ça t'a amené, la sagesse?
Ouais, ben en fait, je pense que ce que ça m'a amené, c'est à comprendre c'est quoi en fait ma motivation intrinsèque. Tu sais, sans avoir trouvé ça, j'aurais pas été capable de continuer, mais en fait, ça aurait pu être autre chose, là, mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que courir, j'aime profondément ça, mais pour tout ce que ça m'apporte à moi. Fait que je pense que peut-être pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être, ils vont peut-être juste réaliser que finalement, c'est peut-être pas la course, tu sais. Mais je pense qu'il faut juste trouver, au final, qu'est-ce que t'aimes vraiment, puis pourquoi, en fait. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir une introspection, puis de chercher à comprendre les motivations qui nous poussent à faire X, Y, Z. Tu sais, je pense que quelqu'un qui aime vraiment pas faire du sport, ben je pense quand même qu'il faut en faire parce que c'est important là de bouger, mais il y a certains niveaux. Fait que je pense qu'au final, c'est il faut que les gens se questionnent le pourquoi qu'ils le font, puis au pire trouver autre chose qui va leur procurer un bien-être, puis pour les aider aussi avec leur estime là. Fait que c'est, je pense que c'est ça que je dirais aux gens de se questionner. Ouais, ben en fait, je peux peut-être vous expliquer un peu comment j'ai remonté de tout ça là. Dans le fond, c'est ça, la première année, j'étais allée à l'UTMA, j'avais eu bon ma petite période. Puis l'année d'après, je suis retournée. Mais là, vous comprendrez que j'étais peut-être un peu plus différente physiquement là. Puis je me souviendrai tout le temps de mon amie Gabrielle Racine qui était là avec moi. Puis je voulais même plus la faire là. Je voulais même plus la faire la course parce que l'année d'après, je voulais la courir évidemment, tu sais, j'avais le goût. Puis finalement, elle m'avait dit Jade, vas-y, puis ton seul objectif, c'est d'avoir du fun. Puis ça là, je vous dis là, c'est comme mon genre de mantra là. Il faut avoir du fun. Fait qu'à partir de ce moment-là, je vous jure là, c'est comme si j'avais perdu 26 livres. Genre je suis partie courir là, puis mon seul but c'était d'avoir du fun, puis j'étais vraiment pas, tu sais, on s'en fout là, de la position là. Puis je me comparais même pas à comment j'aurais pu être ou peu importe. C'est comme si j'avais une espèce de liberté de... Puis c'est là que j'ai compris que j'aimais vraiment courir pour tous les bienfaits, puis l'espèce de kick d'endorphine, puis de légèreté, de bien-être, d'estime, en tout cas, tout ça, là, c'est ce qui fait que je cours encore, là. Mais c'est quand je réussis à être 100% dans le moment présent, puis que j'y vais pour moi, pour me faire du bien, puis d'avoir du fun, évidemment. Fait que c'est un peu ça qui m'a fait transitionner, en quelque sorte, vers la trail, parce que, ben veux pas, je sais pas si vous courez entre elles, mais tu sais, la montre, on s'en sac un peu, là, tu sais. Fait que c'est un peu ce qui m'a un peu enlevé de mes démons, là, de regarder mon pace et tout. Fait que voilà, c'est un peu ça l'histoire.
Tu as nommé tantôt que ce qui avait été un élément décisif ou marquant de ton demi-marathon, c'est que tu avais été obligé de marcher. Alors qu'en trail, c'est normal de marcher, puis c'est pas. Sur route, c'est comme grave, là. Hey, j'ai marché, j'ai pas réussi, j'ai marché. Ben oui, t'as réussi, t'es arrivé à la fin. Tu l'as totalement réussi, ça n'empêche absolument pas tout ton événement global, là. Mais en trail, c'est différent. C'est normal de marcher, puis il faut même, tu sais, si tu veux arriver au bout, les monter, etc. Il y a une stratégie comme ça de faire de l'alternance course-marche. Fait que je pense qu'effectivement, ça enlève une certaine pression que les coureurs de route se mettent que si je marche durant ma sortie, c'est comme si la sortie n'était pas valide, alors que pas en tout. Là.
Non, exactement. Là. Il faut. En fait, c'est impossible à part les premiers. Là, c'est impossible de pas marcher. Là. Quand ça monte. En face d'un singe, tu peux pas courir seul. Mais ouais, ça change la perspective.
Puis j'ai une petite histoire personnelle. Puis moi, je me reconnaissais dans ce que tu disais, tu sais, des périodes souvent démotivées, etc. Je l'ai vécu beaucoup dans mes premières années de course où, quelques fois par année, je partais courir. Pourquoi je m'inflige ça? Je me posais la question, pourquoi je m'inflige ça? J'ai pas tant de plaisir. Je suis accroché, comme tu dis, à ma montre, à regarder mon temps. Hey, je suis 2 secondes plus lent qu'hier. Là, ça devient une spin négative dans ma tête. Puis, réellement, là, je te rejoins. Puis, OK, juste avoir du plaisir. Puis, ça fait plusieurs mois, puis même, je pense, en années, où j'ai pas eu une phase. C'est récemment que j'ai réalisé, hey, j'ai pas eu ma phase de pourquoi je cours. Puis, que j'ai eu besoin de me recrinquer moi-même. C'est ancré. Puis, OK, je le fais pour les bonnes raisons. Mais, petite anecdote. J'ai encore cette anxiété de performance-là, par exemple, pour des événements. Ça, c'est pas, je suis pas totalement guéri. Il m'en reste. Cette semaine, il y a eu un appel pour des lapins de cadence pour le demi-marathon des couleurs ici à Bécancourt, près de chez moi. Puis, ça fait quelques années que je veux faire ça. Puis, je me suis dit, cool, je t'inscris au demi, là. Puis, j'ai pas de stratégie. Je me suis pas entraîné spécifique pour le demi parce que je cours pour le plaisir tous les jours. J'ai pas fait d'entraînement pour dire, je vais aller faire un temps. Mais je me connais. Si je m'aligne sa ligne de départ, même si je me dis j'y vais pour le plaisir puis le vivre, je sais que je vais vouloir le pousser, mais que je parte parce que le temps, parce que tout ça. Fait que je disais, ma chance, je vais m'inscrire comme lapin de cadence. Fait que je vais être obligé de respecter un plan, suivre des gens, puis justement, de les motiver, de les garder. Ils m'ont répondu, hey, merci de votre offre, mais on a eu énormément de gens qui se sont manifestés. Fait qu'on a déjà tout comblé. Fait que vous n'aurez pas besoin de vous soucier d'avoir un temps précis pour... Je dis, non, c'est l'inverse. Je voulais pas me soucier de ma performance. Vous étiez ma bouée.
Hey, tu me fais passer... je pense que je vais lancer un nouveau type de lapin. Ceux qui veulent avoir du fun, genre. Ça va juste écrire « fun » sur le temps. Puis genre, m'a niaisé tout le long de la course.
Le « funny bunny ».
Funny bunny. Si funny, funny yes, bunny. Sir. Check bien dans 20 ans, on va s'en reparler dans toutes les courses. Il va y avoir un funny bunny, genre. Ça va être comme un trend.
Tu serais le meilleur coach Frank pour vrai, là. Je te vois,
yes,
funny bunny.
Ah, c'est clair. Je me vois déjà, man. Je suis déjà sur la piste en train de niaiser avec la mort.
Hey, puis tu sais, demande pas permission, là. Fais-toi des oreilles, funny bunny, puis vas-y,
t'as
c'est tout.
T'as bien raison, man. C'est ce que je fais, ouais, ça Ottawa, Ottawa 2024.
Pas game.
Je vais me mettre des oreilles, puis je vais essayer de les faire comme Playboy un peu.
Yeah, c'est bon.
J'en reviendrai sur le début de l'entrevue, tu sais, où t'as nommé que t'es en arrêt depuis un mois. Là, c'est différent, tu sais, c'est pas parce que t'as pas envie de courir. Il y a vraiment une condition qui t'amène à être obligé d'arrêter le sport. Puis le sport, tu pourrais dire jusqu'à quel niveau. Mais comment tu fais pour... À quoi tu te raccroches pendant ces périodes-là? Puis qu'est-ce qui fait que tu gardes quand même un focus sur la course? Ou à l'inverse, tu sais, ça t'a-tu comme fait réaliser « Ah, finalement, la course, je n'ai plus besoin. »
Ouais, ben c'est une bonne question parce que je suis encore en processus là-dedans. Puis si je peux préciser, j'ai eu une première phase, puis j'ai eu la deuxième phase. La première phase, c'est avec mon diagnostic, il m'avait donné un traitement pour un mois. Puis après le traitement, moi j'avais une échographie cardiaque là, qui marquait un peu la fin de cette première phase-là. Donc moi dans ma tête, c'est comme une course là, j'avais un objectif, je me disais parfait, c'est un mois, je prends la médication, je vais être correct après, on va recommencer graduel. C'est juste pour me permettre de me reposer. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on fait pas. Puis je suis quand même positive, j'ai été positive là-dedans en me disant que ben regarde, je pense qu'il faut juste que je le prenne comme ça vient, puis faut pas que je cherche à comprendre pourquoi ça m'arrive à moi. Ça va juste me permettre de justement me reposer puis me faire des choses que je faisais pas, là, genre de la cuisine. Là. Puis fait que ça a été la première phase. Sauf que j'ai eu une petite récidive. Autrement dit, elle est comme pas partie. la péricardite. Fait que là, je suis comme dans la deuxième phase et je dois vous avouer que hier, j'ai eu un petit moment un peu de découragement. Là, tu te dis, j'ai-tu été naïve de penser que ça allait partir comme, tu sais, après un mois, puis que finalement, j'allais pouvoir recommencer graduellement? Là, on dirait que c'est comme si je voyais pas nécessairement la fin. Tu sais, des fois, on vit des épreuves, puis on est capable de s'imaginer, OK, ça va être jusqu'à telle, tu sais, à telle date, ou peu importe, à peu près telle période. Fait que c'est motivant, mais là, le néant, puis l'espèce de... C'est ça, le fait qu'on sache pas exactement comment ça va se dessiner, ben c'est peut-être un petit peu plus insécurisant, mais je pense que j'apprends beaucoup là-dedans. Puis je suis quelqu'un qui parle quand même beaucoup de mes émotions, fait que j'en ai parlé avec mon copain, puis au final, ben qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Ben c'est de prendre soin de moi, tout simplement, puis de faire des choses que j'aime. Fait que je suis là-dedans, tu sais, je pense que ça sert à rien que je capote puis que je me mets à penser un peu trop loin. Ça m'emmène à être plus dans le moment présent puis à profiter de ce que je peux faire présentement. Parce que c'est comme des gens de petits up and down. Quand j'en fais trop, quand je suis trop fatiguée, là, on dirait que c'est comme si je recule, puis là, on dirait que la roue négative essaie de vouloir repartir, mais c'est ça, je pense qu'il faut juste... Faut juste voir positif, là.
Moi, je voudrais retourner encore en arrière. Fait que ça va être comme. Avez-vous vu le film Irréversible? Va falloir l'écouter comme à l'envers, genre je vais le splitter à l'envers. J'aimerais ça retourner en arrière parce que moi, je suis vraiment. J'ai beaucoup de difficultés avec tous les termes médicaux. J'ai de la misère à faire la différence entre un rhume et une grippe. T'as dit péricardie. C'est quoi, et surtout moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ça a une fin justement, est-ce que c'est quelque chose qui peut passer, qui va passer, est-ce que c'est quelque chose qui va revenir toute ta vie, juste pour mettre un peu de contexte autour de ça.
En fait, pour être honnête, moi j'ai fait la chiro, mais tu sais, c'est pas le genre de condition que je vois dans mon bureau. Fait que, un peu comme vous autres, j'ai eu à me questionner puis à comprendre un peu plus d'où ça venait puis c'est quoi exactement. Fait que, une péricardite, inflammation, donc c'est une inflammation du péricarde qui se trouve à être l'enveloppe du cœur. Puis en gros, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a comme deux petits feuillets autour du cœur, puis il y a comme du liquide. Un épanchement qui se crée entre ces deux petits feuillets-là. Un peu comme quand on a une ampoule là, qui a comme du liquide là, qui se crée. Fait que le fait qu'il y ait comme de l'inflammation, du liquide entre les deux petits feuillets, ça fait en sorte que ton cœur est comme plus rapidement sous pression, si on veut, pas sous pression, mais qui accote dessus, là, qu'on peut moins. Fait que, t'sais, ça fait en sorte que quand je suis couchée ou même quand je suis penchée, ça me fait des genres de crampes, là. C'est vraiment, vraiment pas confortable. Puis, veux, veux pas, c'est énergivore. T'sais, on est fatigué, là. T'sais, puis c'est. Je suis pas capable, je suis très essoufflée. Quand je marche, là, pour vrai, je me sens déconditionnée, là. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça amène comme une espèce de... On se sent pas très bien, là, dans notre corps en général. Puis mais juste pour dormir, vous douterez que coucher sur le dos, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, je dors en angle, là. Fait que... Donc, c'est ça. Une péricardite, c'est vraiment de l'inflammation. Mais là... Jusqu'à tout récemment, je me suis moi aussi demandé c'est jusqu'à quand que ça, tu sais, c'est quand que ça va finir, puis ça revient-tu cette affaire-là? Mais les médecins, tu sais, comme ils m'ont dit, ils savent pas nécessairement. Moi, Jade Raymond, ça va partir quand? Ça peut prendre 2, 3 mois, puis pendant ce temps-là, ben c'est pas d'activité physique. Fait que c'est un peu l'inconnu. Là, il y a la médication pour ma part. Le premier traitement, il a pas fonctionné. L'inflammation est toujours là, autrement dit. Fait que mes symptômes sont comme revenus. Puis, ben oui, ça se peut que tu restes avec une fragilité. Il y en a d'autres qui ça, ils en ont un épisode, puis ça leur arrive plus. Fait que c'est ça, c'est de dealer un peu avec tout ça. Puis, tu sais, je suis vraiment pas en train de. Tu sais, il y a plein de conditions pires, là. Hein. Je suis pas. Je suis juste un disclaimer, là. J'ai pas.
Ton message est très clair.
Je pense qu'on a tous des défis ou des petits des épisodes dans notre vie à surmonter, là. Moi, ça en est un, mais c'est ça. Donc, c'est comme un peu flou. Il y a personne qui peut dire, Jade, c'est pas comme quand tu te casses un bras, là. T'sais, on dit souvent ça, là, j'ai une entorse. On dirait que des fois, c'est touché parce que ça revient pas tout le temps aussi rapidement. Puis même chose, quand tu te casses un bras, tu dis, bon, c'est tant de temps dans un plat, tu fais la réadapt, merci, bonsoir. Mais là, c'est pas ça.
Moi, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a sûrement pire dans la vie, mais ça reste que quand ça nous arrive, c'est notre préoccupation. Puis je pense que, en fait, ce que j'en comprends, c'est que c'est très, très, très incertain. Fait que ça se peut que ça passe dans 2 mois puis que tu n'aies plus jamais ça de ta vie, comme ça se pourrait que ça revienne once in a while. Ce qui est encore plus, ce qui peut créer des pensées anxiogènes. Je veux dire, j'imagine qu'après que ça va être fini, quand tu vas courir, la moindre petite sensation au cœur, tu vas commencer à dire si tu es revenu. Fait que je sympathise beaucoup avec toi.
Non, c'est ça. Puis je veux. Puis dans mes max, ce que tu as dit, Jade, je veux absolument pas minimiser ta condition, mais Frank, tu l'as dit. Quelqu'un qui a une ampoule à l'orteil et qui ne peut pas courir, son drame est aussi grand ici maintenant. Hein. C'est, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Là.
Exactement.
Je t'amène ailleurs parce que quand tu m'as parlé de ce sujet-là, moi, l'image que j'ai, que je te connais, c'est une fille qui est très motivatrice pour les autres. Puis c'est comme ça que je t'ai connue. J'ai trois exemples en tête, puis tu pourras nous parler de toutes ces expériences-là ou d'autres choses. Moi, la première fois que je t'ai connu, c'était à la course de la série du Diable. Je te connaissais pas, en fait, puis tu me suivais quelques secondes. Écoute, dans mon dos, là, vraiment dans mon dos. Puis là, j'entendais une fille à toutes les trois coureurs, peut-être. « Hey, let's go, Joe! Let's go, Kevin! Hey, cool! Yannick! » Puis j'étais « Calvaire, c'est qui? Ça connaît tout le monde! » Puis moi, je suis cut-off. Je veux juste faire un temps cette fois-là. Puis je t'entends, toi, qui full à l'aise, chill avec tout le monde. J'étais comme « Tabarouette! » Un, c'est une athlète, puis deux, elle connaît tout le monde. Puis après ça, tu sais, les gens parlaient. Là, « Ah oui, Jade a encouragé tout le monde. » Puis en plus, le parcours faisait qu'on se croisait. Fait qu'on on voyait beaucoup, là, vraiment comme un aller-retour sur une rue. Fait qu'on ne voyait pas plein de monde. Honnêtement, j'ai été surpris. Puis c'est après ça que j'ai su que c'était toi, je t'ai connu. L'autre épisode qu'on a eu, c'est... on a fait l'épisode avec les demoiselles. Ben, Jade est venue faire, j'allais dire, un relais. 5 relais de suite avec les demoiselles. Fait que Jade, au lieu de faire un relais comme tous les bénévoles, elle a fait un 50 kilos. Elle a fait 5 fois la boucle pour voir les 5 équipes. Puis dont une des itérations là, avec moi, avec mon équipe. On a eu du fun. Là, c'était cool. Elle amenait une vibe vraiment de bonne humeur. Les filles commencent à être fatiguées aussi. Fait que ça, c'était magnifique. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Puis l'autre épisode que je sais de toi, puis ça serait cool que tu nous en parles un petit peu, c'est que tu as été aussi équipière ou crew pour de l'Ultra Trail, entre autres pour ton chum, sur des courses de très longue distance, sur le Thor qui est 300 km, je ne me trompe pas, 305?
350,
bon. Tu vois, fait que d'être équipière, c'est pas juste la logistique. Hein. J'imagine qu'il y a un gros bout aussi d'essayer de changer la vibe, insuffler de la motivation. J'aimerais ça, si tu peux nous parler un petit peu de ça. Comment toi, tu vois ça, d'insuffler de la motivation aux autres? T'sais, oui, c'est extrinsèque, mais ça a un effet ici, maintenant, pour ces gens-là, quand ça compte.
Oui, bien, en fait, là, on dirait que tu me poses une question que j'avais pas vraiment pris le temps de réfléchir, puis je trouve ça intéressant. Mais je pense qu'au final, ça se fait un peu naturellement, parce que je pense que les gens, tu sais, c'est comme un échange, hein? Le fait d'être entouré de gens, de voir que ces gens-là, justement, essaient de se motiver, tu sais, de surpasser, moi, ça me motive, puis on dirait que naturellement, j'ai le goût de les encourager. Tu sais, mettons qu'on prend l'exemple de la course à la série du Diable, ben, tu sais, juste de dire let's go, là, cette personne-là dit let's go, tu sais, on dirait qu'on est comme tout content, puis c'est comme une espèce de boule de neige qui fait juste grossir, là, c'est vraiment le fun. Puis même chose pour les demoiselles, là, tu sais, c'est incroyable le défi qu'ils font, là. Fait que, tu sais, moi, je suis juste là à une journée, les voir, les encourager, alors qu'eux autres, tu sais, c'est non-stop, jour et nuit, pendant 5 jours, là, tu te dis, OK, tu sais, moi, dans le fond, ça. C'est juste naturel là, d'aider, là. C'est juste une journée. Là. J'ai une journée pour donner de mon temps, ben let's go. Fait que c'est même pas comme un effort, mais je me nourris des gens, puis ça se fait comme naturellement. Pour vrai, moi, toute seule, je serais pas comme ça. Là, j'ai comme un besoin d'être entourée. Puis, mais par contre, je dirais que c'est différent d'être crew. Parce que là, moi, tu sais, naturellement, ben, vous en êtes rendu compte, là, je suis capable de m'emballer, là, mais en étant crew sur des longues distances, il faut que je me modère. Et ça, c'est différent. Parce que, tu sais, la personne, c'est pas un effort, c'est tellement un long effort que même si je suis wouhou, lui, ben, on va prendre mon copain là, en exemple, là, tu sais, il n'y a pas besoin que je sois trop intense, là, tu sais, il vient de passer je sais pas combien d'heures à genre marcher. T'sais, je veux dire, il fait ça parce qu'il y a du fun, là, mais t'sais, il y a peut-être des petits inconforts. Fait qu'il y a juste besoin que, oui, j'y change les idées, mais pas d'être trop hop la vie. Là. Fait que ce genre d'effort-là m'a permis d'un peu être plus caméléon, là, comme d'observer comment il se sent, d'y apporter comme les bons mots, les bons, les bons conseils, en tout cas, peu importe, là, ce qu'il y a de besoin au moment où il y en a de besoin, sans être trop, parce que c'est vraiment une gestion. Ça fait que c'est différent un peu. Je suis pas pareille. Je suis comme wouhou quand il est plus là, puis que je parle avec d'autres personnes qui font la même job que moi. Mais quand il est là, j'essaie plus de me calmer.
Je trouve ça fascinant ce que tu dis, puis c'est le fun que tu puisses le nommer. Puis je pense que, comme tu dis, crew, c'est peut-être plus dans l'émotif, puis de voir de quoi l'autre a besoin ici maintenant pour partir plusieurs heures tout seul dans le bois, dans la forêt, dans la montagne, versus série du diable. Ben, un beau petit let's go, là. Let's go, Raval, il te reste 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes, puis c'est fini après. Là. Versus, tu peux pas y dire ça au premier ravito à ton chum. Hey, ça achève. Non, ça achève pas en tout, non.
Il reste rien que 335 km.
Exactement, mais c'est
ça. Je suis curieux, ça ressemble à quoi un temps sur un 350 km? Là, tu sais, je sais pas, comme, en général, ça, c'est quoi ça?
Ben, je peux te dire, cette année, là, il y a eu, je pense que ça a été le record de parcours, là. Ils l'ont gagné la personne l'a gagné en 66 heures. Donc ça, tu peux calculer ça comme tu veux, là, mais il n'y a pas même...
Mais je parle, mettons, quelqu'un, tu sais, comme mettons, sur un 10, là, on s'entend, la grosse partie passe dans la tour d'une heure, tu sais. T'as celui qui le fait en 33 minutes, là, puis tu sais, ça, t'as comme... Tu sais, à 50 minutes, là, il n'y en a pas gros qui passe en bas de 50 minutes. Fait que c'est quoi, mettons, l'average d'un coureur... typique. Ou ton chum?
J'ai aucune idée comme... Le... Ben, mon chum, il l'a pas malheureusement complété. Là. Il y a eu des petits problèmes d'irritation entre les fesses.
On le salue!
Fait que... Salut Sam! Fait que... Mais en ce cas, c'est ça. Fait que je sais pas... Mais lui, il visait, tu sais, il y a comme toujours l'objectif A, B, C, là, de le finir. Après ça, c'était de le faire en bas de 130 heures. Parce que si tu le fais en bas de 130 heures, là, tu peux avoir, on va dire, ton ticket là, pour aller faire le Tour des glaciers qui est 450 km. Non balisé. Fait que... Mais ça, c'était comme l'objectif A. Fait que je te dirais, je sais pas combien de personnes réussissent à faire en bas de 130 heures, mais pour la majorité... des gens, c'est quand même ça l'objectif de faire en bas de 130 heures. On a un Québécois, là, d'ailleurs, Sébastien Lacombe, il l'a fait en bas de 130 heures, et je pense qu'il l'a fait en 120, en tout cas, il a vraiment, wow, là, mais il avait une jambe de bois à la fin, là, tu sais. Mais lui, c'est ça, il est vraiment hot, là. Fait que, puis il y en a d'autres Québécois, est-ce que je nomme lui, mais tu vois, il y a peut-être 4 autres Québécois qui l'ont complété, puis eux étaient plus proches du 150 heures qui est le temps limite. Mais, je sais pas exactement c'est quoi.
Hey, c'est quand même 5 jours, là, 120 heures. Là. Je veux dire, c'est quand même. Je veux dire, on peut jaser, mais c'est quand même c'est ça. T'sais, l'autre, c'est 3, mais sinon, là, on vise en bas de 5 jours. Là.
Ouais, puis c'est pas beaucoup de sommeil. Là. T'sais, c'est à shot, il faudrait demander, là, mais il dort peut-être 1-2 heures max. Là. Fait que c'est toi qui gères, en fait.
Moi, j'étais pas là, Frank, mais je vais répondre à ta question. Tu dis. Le monde en moyenne font combien? Le monde moyen sont pas là.
Non, mais je veux dire, les moyens des Ultra Trails, je veux dire. Quand t'es dans le monde du Ultra Trail, tu dois être comme, ça c'est un gars moyen, il fait ça en 150. Là. C'est comme, pars-y pas. t'es pas de ma crew, genre. Moi, je fais ça en 118, genre, parle-moi pas 124 heures. Talk to my hand. Moi, je fais 5 jours de travail à 8 heures par jour, puis je suis brûlé. Fait que bravo les gars, bravo Sébastien, bravo ton chum.
Ah non, c'est débile.
Jade, y a-tu quelque chose, une question qu'on t'a pas posée, un message que tu voudrais dire à nos auditeurs, une place qu'on n'est pas allé, qu'on mériterait d'aller pour nos auditeurs?
C'est dur, c'est comme si, vu que je suis plus dans... Tu sais, une question ça aurait pu être c'est quoi tes prochains objectifs par exemple, mais là on dirait que tout est un peu incertain, tu sais, dans mon... je suis comme vraiment dans le... Je veux prendre du temps pour me... Pour repartir vraiment de façon solide, là.
Ça serait quoi être solide pour toi?
Ben, je pense que de reprendre... Tu sais, pas de juste recommencer trop rapidement pour avoir... pour revenir un peu d'où je suis partie, d'où j'ai quitté, là, en fait. De façon solide, ça serait de prendre le temps de recommencer graduellement puis de me sentir, tu sais, d'avoir des bonnes sensations. Puis de continuer à faire un peu ce que j'avais intégré, là, c'est-à-dire la musculation, de continuer à bien dormir, bien manger. Tu sais, tout recommencer, continuer là, d'où j'avais quitté. Parce que cette année, puis les autres années, c'était vraiment des années où je me suis bien sentie. Tu sais, quand on se sent dans la zone. J'avais l'impression que j'étais équilibrée dans ces sphères-là. Fait que de façon solide, ça serait ça. De pas me mettre d'objectifs ou de telle date, il faut que je sois rendue à tel niveau, là. Vraiment d'y aller graduellement en fonction de comment je me sens, puis de vraiment écouter mes sensations, là.
Je te le souhaite.
Écouter mon corps. Parce que c'est ce que je prône, tu sais, c'est ça l'affaire. On prend l'équilibre, on prend la santé, puis je suis contente dans un sens d'avoir eu ces connaissances-là, puis tu sais, c'est un peu cette philosophie-là, parce que ça nous aide, là. Tu sais, on veut prôner l'exemple, tu sais, si je dis à un patient de ne pas faire ci, ben tu sais, il faut que que je sois cohérente avec ce que je recommande.
Pas être comme le docteur Barrette.
Ouais.
Good. Ben merci. Hey, beau partage, pour vrai. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis tu l'as amené sous un angle qu'on voit moins. Puis en plus, ben, t'sais, là, malheureusement, mais tu es dans une période actuelle où tu es obligé de te questionner sur la motivation. Puis je trouve ça riche, ce que tu as amené. Merci.
Merci.
Puis pour finir, Gérard, est-ce que tu aurais quelque chose à plugger à nos auditeurs?
Oui. En fait, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la course de la Chute du Diable. C'est une course qui a lieu à Saint-Mathieu-du-Parc et ça fait déjà, là je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que ça fait déjà un an, ben, une édition qui n'a pas eu lieu ou deux. Si je ne me trompe pas. Puis, on a un retour de la Chute du Diable le 10 août 2024. Donc, c'est dans la région de la Mauricie. C'est vraiment un bel événement. Il va y avoir un 35 km, un 50 km, un 75 km. Puis, je sais que ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais c'est vraiment un bel événement, même si vous voulez juste aller voir ou participer, être bénévole. C'est vraiment un bel événement. Puis, je pense que beaucoup de gens vont être contents que ça revienne. Ça va être en fait la 10e édition. Voilà. Puis c'est une course. En fait, ça a été la première course à laquelle j'ai participé pour faire mon premier ultra. Si on veut, j'ai fait mon premier 50 km en 2018 là. Fait que j'ai comme un petit sentiment d'appartenance. Puis c'est vraiment une petite course. C'est une petite organisation là. Ça ressemble pas aux grosses courses comme plus. C'est plus petit. Puis très intime, très local. C'est dans le bois. On aime ça. Fait que voilà.
Fait que j'ai un peu moins d'un an pour m'entraîner pour faire du trail. Merci.
Hey, sérieux, là, tu prêtes un funny bunny dans les trails.
Oh, yes, sir. Ça, c'est bon, ça.
Bravo.
Peut-être me faire tirer dessus par un chasseur, par
Le 10 août, on va être correct.
C'est bon. Ils sont encore à la pêche.
Ouais, c'est ça.
Toi, Frank, tu nous blogues quoi cette semaine?
Hey, ça, c'est super le fun comme question, Bill, parce que j'avais en tête que quand on avait un invité, on le laissait juste lui plugger, puis nous autres, on pluguait pas. Fait que je n'ai pas préparé de plug cette semaine, quoique j'en prépare pas souvent. Et j'ai une montre sur mon bureau qui est ma montre Suunto Anbit 2. Et là, je commence à me sentir vraiment pépère. Je me souviens, une fois, j'étais allé m'acheter des skis de fond, puis un monsieur qui était arrivé avec des skis de fond de bois, puis tous les jeunes étaient comme « What the fuck, c'est quoi ça? » Fait que je commence à me sentir de même. C'est une montre que j'ai reçue en cadeau en 2014, mais c'est la montre GPS que j'aime le plus. J'ai l'impression qu'elle est indestructible. Ça fait 10 ans qu'elle me suit, soleil, dans la mer, moins 40, comme juste... Elle fait la job, j'ai l'impression que j'ai un tank dans les bras. Je sais qu'elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus pesante, beaucoup moins de fonctions que les nouvelles montres, mais je l'adore. Fait que je voudrais shooter la brand Suunto. Ça a été d'un premier à faire des montres GPS pour les sportifs. Après, les autres ont suivi le bal. Ils avaient commencé par d'autres modèles pour justement les gens de trail, les explorateurs, les trekkers, ceux qui font de l'escalade. Fait que je l'adore. Fait que je plug Suunto, qui est une montre, je crois que c'est norvégien. En tout cas, c'est un pays scandinave qui font ça. Et à l'époque, elles étaient faites à la main et c'est juste comme vraiment un tank. Et toi, Bill?
Moi, je vais vous plugger les bas Outway que j'adore. Vous les connaissez peut-être sous le nom Endur, E-N-D-U-R. Ils ont renommé à un moment donné pour devenir Outway. Par contre, ils ont gardé toujours le même logo, là, qui est une espèce de U avec une barre flat par-dessus. Là. C'est un accent que je connais pas, là, mais c'est vraiment une barre au-dessus du U. Et puis, c'est des bas qui sont colorés. Moi, dans la vie, j'aime ça. J'ai pas de bas blancs ou bruns. J'ai toujours des bas funky colorés. Puis, quand je courais, ben, c'était des bas noirs ou des bas blancs, là, ordinaires. Puis, quand j'ai découvert ces bas-là, ben, c'est devenu mes bas et de tous les jours et de sport, de course. Ils sont très colorés. Il y a plein de motifs. Ils font plein de partnerships aussi. J'en ai une paire que c'est des sons rouges avec des cerises parce que c'est Chronobar qui ont fait une édition avec eux autres, qui ont plein de partenariats comme ça avec d'autres marques. Puis en plus, ben c'est une marque canadienne, ça vient de Colombie-Britannique. Que j'adore ces bas-là, un petit peu compressifs, plusieurs niveaux. Il y en a qui vont presque jusqu'au genou, là, qui couvrent le mollet. Il y a mi-cheville, puis il y a des très courts aussi là, qui vont être cachés dans les souliers. Fait que ça, c'est le mi-bas de prédilection. J'allais dire quand je cours, mais tout le temps finalement. Je mets juste ça maintenant.
Et moi, je voudrais rebondir là-dessus. Coach Bill m'en a donné une paire et je les aime. Moi aussi, j'ai des cerises et des morceaux de chocolat parce que notre équipe s'appelait Run to Eat. Et pour Bill, c'est important qu'on ait de la bouffe sur nos chaussettes.
Ah, puis c'est drôle, puis on s'en était pas parlé, mais mon chum, il en a commandé 7 paires justement pour sa course. Fait que il y a des bleuets, des montagnes. Fait que c'est une belle compagnie, oui.
Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Jade?
Bonne course!
Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.